Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous apporter un certain nombre d'informations destinées à contextualiser cette journée de formation. Donc, pour commencer, ce sera une présentation du réseau ISOR. Je poursuivrai par les raisons qui nous ont conduites à proposer une journée sur les données de la recherche. Je vous présenterai la démarche que l'on a suivie et terminerai par la présentation du programme. Donc, le réseau ISOR. Le réseau ISOR est un réseau professionnel national terrain. Il rassemble des ingénieurs et techniciens. Environ 150 membres sont inscrits sur notre liste de diffusion et très majoritairement issus de la famille des métiers de l'IST, de l'ABAP-F, du CNRS et d'autres établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. D'autres métiers sont aussi présents au sein du réseau, mais dans des proportions moindres. D'autres métiers de l'ABAP-F principalement dans la communication, l'édition, l'audiovisuel, mais aussi de l'informatique. Les membres du réseau relèvent majoritairement de 4 sections du CNRS, donc la 32, mondes anciens et médiévaux, la 35, sciences philosophiques et sciences de l'art, la 36, sociologie et sciences du droit, la 40, politique, pouvoir et organisation. Cependant, toutes les sections des sciences humaines et sociales sont présentes dans le réseau. Voilà. Les unités sont majoritairement, enfin les membres du réseau appartiennent majoritairement à une unité de recherche, mais là aussi, toutes les structures toutes les structures d'unités sont présentes dans le réseau. Les objectifs du réseau sont de s'approprier et transmettre les mutations des technologies dans les domaines de l'IST et de suivre leur évolution, et de favoriser les développements et l'échange dans des formations autour de pratiques professionnelles. Voilà. Donc, d'où la proposition et l'organisation d'une ANF. Donc, une journée sur les données de la recherche, pour quelles raisons ? Depuis quelques années, la question des données est très présente dans l'actualité de la recherche. Une date clé, 2013, les ministres de la recherche des pays du G8 adoptent le principe de l'ouverture des données obtenues sur financement public. Les appels d'offres européens, comme Horizon 2020, demandent un plan de gestion de données et certaines agences de financement en demandent aussi. La question des données de la recherche interroge à la fois chercheurs et ingénieurs et techniciens dans les établissements de recherche. Quelle place et quel rôle pour le professionnel de l'IST dans l'univers des données? Des rendez-vous professionnels de l'IST ont été consacrés, des rendez-vous importants ont été consacrés à ces questions au cours des dernières années. Par exemple, les FREDOC 2013 étaient consacrés à la gestion et la valorisation des données de la recherche. Il y a eu aussi la mise en place d'une ANF par Renatis, participer au management des données de la recherche. Celle-ci a été reconduite en 2017, donc elle s'est déroulée en 2016 et en 2017, et en 2017 avec l'appui du réseau professionnel Médicine. En septembre 2016, la 6e journée nationale des urfistes était consacrée au partage des données de la recherche. Quels impacts ? Le réseau ISOR n'est pas resté en reste. Dès 2014, il s'est intéressé à cette question et a organisé une première journée sur les plateformes de données en SHS. Souhaitant aller plus loin sur cette thématique toujours en pleine évolution et faire face aux mutations majeures en cours, l'idée d'une deuxième journée s'est imposée. La genèse du programme de la journée. Elle s'est faite à partir de nos interrogations de professionnels de l'IST sur le terrain, en contact avec des chercheurs en SHS. Que recouvre la notion de données en SHS? Comment s'approprier les outils mis à disposition dans la communauté scientifique lorsque l'on travaille sur des données SHS, alors que ces outils émanent souvent des sciences dures? Comment sensibiliser, accompagner, conseiller les chercheurs dans leur activité au quotidien dans une unité de recherche. Comment s'approprier les notions de curation, stockage, partage, valorisation, diffusion des données, sans moyens, sans financement particulier. Nous, membres du réseau ISOR, avons questionné, interrogé les chercheurs de nos unités sur leurs pratiques. Nous vous avons aussi sollicité, vous, membres du réseau, via la liste de diffusion en vous posant deux questions. C'était au mois d'avril. Quel type de données de recherche concerne votre discipline? Quelles sont vos principales préoccupations dans votre environnement sur les données de la recherche? Connaissance et choix des entrepôts, aspects éthiques et juridiques des données, ouverture des données, plan de gestion, format, licence, connaissances d'expériences et de projets conduits dans vos disciplines. Je remercie d'ailleurs les collègues qui ont répondu à cette enquête. Ce qui a particulièrement retenu notre attention, c'est la variété et l'hétérogénéité des données en SHS, où l'on trouve à la fois des jeux de données de taille modeste, mais il existe aussi dans certains projets des données relevant du big data. Par ailleurs, dans de nombreux cas, les jeux de données associent différents types de données, différents supports, type images, son, texte. Certaines thématiques en SHS sont balisées. Des réflexions sont conduites sur les données. Il existe des consortiums, des entrepôts spécialisés. D'autres pans ne le sont pas. Que faire? Quelle démarche adopter quand un projet que l'on conduit n'entre pas dans les domaines déjà balisés? Cette démarche, ces questionnements nous ont permis d'organiser la journée autour de préoccupations communes de professionnels de l'IST1-SHS, sans pour autant entrer dans des spécificités disciplinaires souvent très marquées. Une première préoccupation commune, donc nous arrivons au programme, concerne la connaissance des entrepôts. Nous avons fait le choix de consacrer la matinée à ce sujet. Stéphane Pouillot, du Manum, nous présentera l'offre de la TGIR en termes de stockage et de diffusion des données. Comment choisir un entrepôt en SHS? Joachim Schöpfel de l'Université de Lille 3 nous présentera la démarche proposée dans la cellule déliée à l'accompagnement des chercheurs de son université. En début d'après-midi, un retour d'expérience sera proposé par Nicolas Bontemps et Isabelle Donze du laboratoire d'ethnologie et sociologie comparative. Il s'agit de traitement de données audiovisuelles du OLESC. Il s'agit là d'un projet qui s'inscrit dans l'activité d'un laboratoire et qui ne bénéficie pas de financement particulier type ANR. Nous souhaitions vraiment avoir un projet de ce type dans cette journée. Une préoccupation commune très présente, le volet éthique et juridique des données. Isabelle Gras, du SCD de l'Université d'Aix-Marseille, nous présentera le projet de réalisation d'un guide de bonnes pratiques sur les questions juridiques et éthiques pour la distribution des données en sciences, pour la diffusion des données en sciences humaines et sociales. Comment élaborer un plan de gestion de données? Quels sont les services existants dans mathématiques? Comment attribuer un DOI, un jeu de données? Bernard Sampité, de l'INIST, nous présentera le tout nouveau portail Opidor et l'offre de services de l'INIST. Enfin, des idées de pratiques à transposer, quelle que soit la taille du projet et de la structure. Étienne Cavalier, de la BNF, nous présentera l'ouvrage « Expérimenter les humanités numériques, des outils individuels au projet collectif » dont il est l'un des co-coordinateurs et qui vient d'être édité en ligne. Je terminerai cette contextualisation par un retour sur l'actualité des données qui nous rejoint là encore. Le conseil scientifique du CNRS a adopté le 24 novembre 2017 une recommandation intitulée « Les moyens de partage des données scientifiques ». Il souligne le rôle essentiel des infrastructures dédiées aux données sur le territoire et précise entre autres le rôle essentiel des chercheurs, documentalistes, informaticiens qui œuvrent de concert sur ces questions. Je vous remercie et je laisse maintenant la parole à Christine Dossin.
Là, on présente sous forme de poster les questions abordées par Valérie sur l'organisation de l'ANF. Donc je commence par le milieu. Hop. Quels outils et services pour la pérennisation des données SHS ? Donc, vous trouverez l'impression de ce poster à la cafétéria à l'extérieur et vous pourrez regarder plus attentivement pendant les pauses. Là, je me contente de vous présenter brièvement la démarche. Donc, dans ce poster, vous trouverez donc en rose une collecte du type de données qu'on trouve dans les SHS. Donc, on a fait. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas un état de l'art, hein, ce n'est pas un inventaire, hein, c'est pas du tout exhaustif, c'est simplement une mise en commun des enquêtes faites dans seulement 4 labos, hein, dans le comité de pilotage de l'ANF, et puis les réponses reçues à l'enquête postée par Valérie sur la liste du réseau. On retrouve bien des types de données, des enregistrements audio de toute nature, de la musique, des enquêtes dans des formats numériques, analogiques. On a des images fixes, on a des logiciels et outils d'analyse, on a des textes dans 15 000 formats, sachant que de toute façon, cette carte ne sera jamais à jour sur le plan des données, parce que c'est de toute façon le propre de la recherche de produire sans cesse des nouvelles données et de nouveaux outils pour les analyser. Donc c'est une carte tout à fait exponentielle avec une petite représentation pour cette ANF. Voilà, donc on trouve également dans la carte en noir, toutes les questions qu'on s'est posées pour préparer l'ANF. Donc, et ce sont, là, je peux dire, des questions qui ont traversé chacune des réunions du comité de pilotage. Donc, c'est vraiment des questions récurrentes sur l'hétérogénéité des formats, avec d'une part, quand même, des données qui sont déjà décrites, conservées et localisées, les données de bibliothèque, les données des archives, les données des musées sont autant de données, les données des grandes enquêtes, des grandes bases de données structurées. Donc ça, on a quand même dans le paysage des données qui sont déjà structurées, je dirais, mais aussi énormément de données éparses, peu structurées, non décrites, avec bien souvent des métadonnées qui sont propres aux outils utilisés. Des appareils photo, mais aussi des logiciels ad hoc pour l'analyse du projet et qui ne sont pas du tout normalisés. Donc, première série de questions. Deuxième série de questions, le partage et la réutilisation des données, où on retrouve la question du droit et de l'éthique qu'on abordera dans la journée, mais aussi des questions de déontologie, c'est-à-dire des questions qui concernent la contextualisation et la qualité des données propres à une démarche dans une discipline donnée, voire dans une méthodologie dans une discipline donnée. Ensuite, la question de la pertinence, qui est une question qui apparaît dans le dialogue avec les chercheurs. Quelles données conserver ? Données construites, brutes, les résultats ? Et puis aussi des questions d'arbitrage, arbitrage du temps du chercheur en fonction du budget, en fonction des moyens techniques, la question du coût d'entrée dans les données d'autrui, la question du coût d'entrée dans les outils, qui est aussi un sujet pour lequel on peut être des passeurs. Enfin, la pérennité des infrastructures d'archivage, quand on voit qu'elles sont souvent financées sur des labex, des équipex, des consortiums, et qui est une question à se poser aussi. Dernière série de questions. Donc, la question centrale de l'ANF, préservation des données, comment s'y retrouver, comment retrouver ces données. Donc, on a tenté une petite organisation d'informations qui nous arrive très souvent éparse. Donc, il y a des outils. Dans les outils, il y a des applications, des formats, des langages, des identifiants, des référentiels. Nous avons aussi des entrepôts de données qui sont généralistes, hein, data.bnf, data.gouv, archive.org. J'ai mis aussi Nacala dans les entrepôts généralistes pour les SHS, en tout cas pour les SHS, c'est généraliste. Des entrepôts complètement spécialisés comme le réseau Ketlé, Cocoon, Archéogis, etc. Et puis enfin des infrastructures. Mais ce qui est très caractéristique, c'est que il y a vraiment un décryptage à faire dans la mesure où ce sont des informations qu'on a, mais qu'on a de manière indifférenciée. Et c'est à nous de faire ce petit travail de traduction, où est-ce qu'on se trouve, de quoi on parle, etc. Un entrepôt, une application, bon. Enfin, il y a une présentation du réseau ISOR, un petit peu élaborée. Voilà, on a essayé de faire l'inventaire, connaissance du terrain, donc à quoi ça correspond, nos connaissances métiers, c'est quoi, la culture métier, qui est quand même une des caractéristiques des métiers de l'IST, c'est d'appartenir à des réseaux professionnels. On fait ça depuis très longtemps. C'est plus nouveau pour certaines autres professions, même si maintenant tout le monde parle de réseau, l'IST c'était quand même une très ancienne culture réseau. Les réalisations métiers, alors là j'ai mis celles dont je me souvenais depuis que j'ai commencé à travailler. Et on voit qu'il y a une très grande adaptabilité de nos métiers sur l'évolution technologique et qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ensuite, un panorama des fonctions dans l'unité. On voit qu'on a très souvent un cumul de fonctions, qu'on s'est positionné sur plusieurs domaines et que, du coup, maintenant, on travaille dans des temps très contraints. Enfin, voilà, il y a des nouvelles problématiques à faire rentrer dans le temps de nos journées. Et enfin, la question qui se pose aujourd'hui, quel positionnement sur les données, accompagnement de projets, documentation des données, réalisation soi-même de projets, qui peut être un excellent vecteur de diffusion. Réaliser soi-même peut entraîner une sensibilisation des chercheurs de l'unité et organiser des formations. Sur quel temps et avec quelle formation, c'est une dernière question.